J'ai en ce moment une méchante toux. Alors si jamais je suis pris d'une quinte pendant le message, vous m'en excuserez. Et ne vous inquiétez pas trop, c'est moins grave que ça n'en a l'air. Imaginez que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur de l'univers, soit accessible à tous. Imaginez qu'il ait décidé, de sa propre initiative, d'oublier nos péchés, de mettre fin à la révolte de l'homme, de ramener à lui des gens de toute nation, de tout arrière-plan, riche ou pauvre, juif ou non-juif, homme ou femme, noir ou blanc, sans tenir compte de leur capacité ou non à obéir à sa loi. Imaginez qu'un jour J intervienne qui inverse véritablement le cours de l'histoire, qui marque le début de la fin pour ce monde rebelle et pécheur, et le début du début pour un nouveau monde qui soit entièrement sous l'autorité de Dieu, marqué par une vie impérissable. Imaginez que ce temps dont les prophètes nous parlent dans l'Ancien Testament, un temps magnifique, un temps où Dieu sera venu parmi nous pour renouveler toutes choses, ben imaginez que ce temps, vous êtes en plein dedans. Je vous invite à lire dans la première lettre de Pierre, le chapitre 1, les versets 10 à 16. 1 Pierre, chapitre 1, versets 10 à 16. Dans les Bibles bleues qui doivent être près de vous, c'est à la page 1187. 1187. Ce salut, les prophètes qui ont parlé de la grâce qui vous était destinée en ont fait l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux, Esprit qui, d'avance, attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'ensuivrait. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient ministres de ces choses, qui maintenant vous ont été annoncés par l'entremise de ceux qui vous ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel. C'est en ces mêmes choses que les anges désirent plonger leurs regards. Aussi, mobilisez vos facultés mentales. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez auparavant dans votre ignorance. Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saints dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi je suis saint. » Il y a un mois, nous avons vu comment Pierre commence sa lettre en rappelant aux chrétiens d'Asie mineure, la Turquie actuelle, l'assurance absolue qu'ils ont en Jésus-Christ. L'héritage d'une vie nouvelle que personne ne pourra leur ôter. Il leur parle aussi d'une joie fondamentale que cette assurance en Christ leur apporte, une joie indicible, nous dit-il, inexprimable, qui vient du fait que nous nous savons réconciliés avec Dieu et aimés par lui pour toujours. Une joie qui n'empêche pas les épreuves, mais qui nous permet de vivre ces épreuves dans l'espérance, parce que nous savons que ces épreuves ne peuvent pas justement nous enlever cet héritage qui nous est réservé. Nous allons voir ce matin comment Pierre poursuit cette lettre d'encouragement et on pourrait résumer son propos dans ces sept versets, 10 à 16, à deux exhortations. Premièrement, prenez conscience de votre privilège. Prenez conscience de votre privilège. Et deuxièmement, changez de cap. Et donc ce sont les deux points que nous allons examiner ce matin. Prenez conscience de votre privilège. Pierre veut que ses destinataires comprennent qu'ils vivent un privilège inimaginable. Et si on regarde à nouveau le verset 9 qui clôt l'extrait qu'on a vu la dernière fois, Pierre leur rappelle que par leur foi, par cet amour qu'ils ont pour Jésus-Christ, alors même qu'ils ne le voient pas et qu'ils ne l'ont pas vu de leurs yeux, ils ont obtenu le salut en plaçant leur confiance en lui. Ils ont obtenu ce rétablissement de leur relation avec Dieu, la fin de leur ignorance de Dieu. Mais ce salut, leur dit Pierre, il ne faudrait pas qu'ils s'y trompent. Il ne s'agit pas d'un coup de tête de Dieu qu'il aurait improvisé comme ça tout d'un coup. Ce salut était annoncé depuis des siècles, depuis des millénaires même. Et ce salut, ceux qui avaient placé leur foi en Dieu au cours de toute l'histoire d'Israël, et même, on pourrait dire d'une certaine façon, au cours de toute l'histoire de l'humanité, eh bien ce salut, ils y aspiraient de tout leur être. Ces croyants des temps anciens n'avaient qu'un rêve, c'est qu'enfin ils puissent, malgré leurs fautes, malgré leurs faiblesses, malgré leurs insuffisances, malgré la mort physique qui les guettait, s'approcher sans crainte de l'Éternel. Et même, puisque les prophètes l'annonçaient, connaître avec lui une relation proche, intime, immédiate. Ça paraissait tellement beau, tellement fou, que c'en était presque inimaginable. Et Pierre ne lésine pas sur le mot, et nous dit même que c'était au point que les anges trépignent d'impatience en quelque sorte. Les anges eux-mêmes désirent y plonger leur regard. Autrement dit, la cour céleste de Dieu, réalité dont nous n'avons qu'un discret aperçu dans la Bible, qui nous échappe en grande partie, mais cette cour céleste de Dieu est elle-même émerveillée devant l'œuvre magistrale par laquelle Dieu ramène sous son autorité et sous son amour une nouvelle humanité rachetée. Est-ce qu'il est possible que nous passions à côté de cette réalité époustouflante et que nous finissions par penser que le salut est un dû tout à fait normal? Ça fait partie de notre vie d'être sauvé, au même titre que notre boulot, notre famille, notre lieu d'habitation. Est-il concevable que nous ayons oublié à ce point ce que ça veut dire de vivre en communion avec Dieu? En tout cas, on voit que Pierre ne veut pas que ses destinataires l'oublient, ne serait-ce qu'un instant. Ses destinataires, ces chrétiens d'Asie mineure, et nous aussi, vivons la vie dont Abraham, Moïse, David et tous les croyants de l'Ancien Testament ont rêvé. À ces hommes, à ces femmes, Dieu a révélé de diverses manières que ce temps de renouvellement total, ce temps de grâce, eh bien, il viendrait après eux. Il viendrait plus tard. Ce n'est pas eux qui allaient en faire directement l'expérience, en attendant bien sûr la fin des temps. Ce seraient d'autres croyants à l'avenir qui connaîtraient cette ère extraordinaire de la faveur de Dieu. Des vénards vraiment, des privilégiés qui n'auraient qu'à recevoir ce qu'il leur est donné et qui n'auraient qu'à s'émerveiller de ce que Dieu a fait. Encore une fois, ce n'est pas un coup de tête de Dieu, ce salut. La Bible l'annonçait depuis des siècles. Le prophète Ésaïe prophétisait à l'attention du peuple qui serait libéré d'exil à Babylone qu'une autre libération, bien plus fondamentale encore, bien plus magnifique encore que cette libération de l'exil babylonien, aurait lieu à l'avenir. Ésaïe chapitre 40, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son combat est terminé, qu'elle s'est acquittée de sa faute, qu'elle a déjà reçu du Seigneur le double de ce qu'elle méritait pour tous ses péchés. Monte sur une haute montagne, Sion, toi qui portes la bonne nouvelle, élève ta voix avec force, Jérusalem, élève ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, votre Dieu est là. Le Seigneur Dieu vient avec force. Son bras lui assure la domination. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. Comme un berger, il fera paître son troupeau. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera sur son sein. » Mettons-nous un instant à la place d'un Israélite du temps d'Ésaïe qui entend ces paroles. Appelons-le Shmuel, au hasard. Shmuel lit sa Torah, il a entendu le prophète Ésaïe, et il apprend que le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Jacob, celui qu'il vénère, va un jour venir avec force, non plus pour juger son peuple, pourtant pécheur, mais pour faire paître son troupeau, pour rassembler le peuple comme des agneaux qu'il portera sur son sein, nous dit le prophète. Le prophète Joël, lui, parle d'un temps où Dieu répandrait son esprit sur tous ceux qui invoquent son nom. Non plus seulement sur quelques prophètes qui ont été comme mandatés afin qu'ils puissent annoncer sa loi au peuple, mais désormais, tous les membres du peuple de Dieu, hommes et femmes, jeunes et vieux, esclaves et libres, seront habités intérieurement de l'Esprit de Dieu. Joël 3, versets 1 et 2. « Après cela, je répandrai mon esprit sur tous, vos fils et vos filles deviendront prophètes, Vos anciens auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Le prophète Jérémie, lui, parlait au nom de Dieu d'une nouvelle alliance que Dieu allait conclure plus tard. Jérémie 31:31. « Les jours viennent où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont rompue, bien que je sois leur maître. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Alors là encore, mettons-nous à la place d'un Israélite du temps de Jérémie, qui entend ces paroles. Cette fois, nous l'appellerons Yitzhak, le cousin éloigné de Shmuel. Yitzhak se rend régulièrement au temple pour apporter aux prêtres des offrandes pour la réparation de ses fautes. Il est tenu à observer des lois alimentaires et rituels stricts pour manifester qu'il fait partie d'un peuple à part, consacré à Dieu. Mais en écoutant Jérémie, il apprend qu'un jour, Dieu va mettre de côté ses lois, ses rites, parce qu'il va entrer en relation directe avec ceux qui croient en lui. Il n'y aura plus besoin de présenter des sacrifices pour les péchés, parce que Dieu aura, nous dit le texte, oublié ses péchés. Dieu va conclure une alliance nouvelle dans laquelle la loi de Dieu sera inscrite sur le cœur de tous ceux qui font partie de son peuple. Il n'y aura plus un peuple avec quelques-uns qui croient vraiment et puis beaucoup qui, tout en observant l'alliance extérieurement, ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Cette fois, tous ceux qui sont appelés à faire partie du peuple de Dieu connaîtront le Seigneur. Et Yitzhak se demande, mais qui seront ces vénards, ces hommes et ces femmes bénis qui vivront ce temps de grâce? Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir vivre en ce temps? Eh bien, ces hommes et ces femmes, c'est nous. Si nous avons bien saisi ce que Dieu nous offre. Dieu a tenu ses promesses. Il a conclu cette alliance nouvelle. Le Fils de Dieu a accompli le sacrifice ultime par lequel Dieu a oublié nos péchés. Et Pierre veut que nous comprenions que nous vivons cette époque dont les anciens ont rêvé. Nous avons le privilège inexprimable de nous approcher de Dieu sans crainte, sachant qu'il a lui-même détruit le mur de séparation que nous avions construit entre lui et nous. Et ce salut, nous savons que Dieu l'a accompli pour nous au prix des souffrances impensables de son Fils Jésus-Christ. Et Pierre nous le rappelle au verset 11 de notre texte, « Les prophètes se sont appliqués à découvrir quelle époque et quelles circonstances désignaient l'Esprit du Christ qui était en eux. » Esprit qui d'avance attestait les souffrances du Christ et la gloire qui s'en suivrait. Pierre nous dit que le jour J est arrivé. Le temps de Dieu a commencé. C'est le début de la fin pour le monde pécheur. Le début du début pour la gloire à venir. Dieu rassemble parmi les nations ses fils et ses filles par la foi pour qu'ils puissent vivre directement dans sa communion. Alors c'est vrai que nous attendons encore, comme disent les théologiens, la consommation, le plein établissement du royaume de Dieu, l'accomplissement final, l'établissement des promesses. Mais Dieu a déjà inauguré son royaume, il a remporté la victoire décisive et il a établi cette nouvelle alliance annoncée par l'Ancien Testament. Donc Pierre veut que nous saisissions bien en quel temps nous vivons. Et on comprend pourquoi il évoque cette réalité juste après avoir parlé des épreuves. Les épreuves vécues par les chrétiens. Ces épreuves nous attristent. Elles nous font du mal. Elles sont bien réelles. Mais elles font partie d'une réalité qui est déjà sur le départ. Une réalité qui est celle de ce monde déchu et rebelle à Dieu. Ces réalités vont bientôt s'évanouir pour laisser place à la gloire, comme ce fut le cas de Jésus lui-même qui a connu la souffrance et ensuite la gloire. Donc Pierre veut encourager ses lecteurs en leur rappelant ce privilège inexprimable. Mais il va poursuivre en les exhortant par leur façon de vivre à montrer qu'ils ont bien compris ce privilège. Et il les invite donc à changer de cap. C'est notre deuxième point. Il y aura peut-être certains fins connaisseurs. En 1987, le groupe de pop-rock REM a sorti un tube dont le titre se traduit « C'est la fin du monde tel que nous le connaissions ». Et lorsqu'on se tourne vers Christ, on devrait peut-être lui dire plus clairement « C'est la fin du monde tel que vous le connaissiez ». Alors la formulation, c'est vrai, fait peut-être un petit peu peur. Mais l'apôtre Pierre nous parle bien ici, comme d'ailleurs tout le Nouveau Testament, d'un virage radical, d'un demi-tour de la vie. Trop souvent, nous avons cette tendance à vouloir ajouter Jésus au reste de notre vie. J'ai ma famille, ma carrière, j'ai mes proches, j'ai mes loisirs, et puis, en plus de tout ça, j'ai Jésus. N'est-ce pas formidable ? La boucle est bouclée. En fait, nous demandons à Jésus de nous suivre, au lieu de répondre à son appel à le suivre. Or, Jésus ne vient pas en plus de toutes ces bonnes choses. Si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons comprendre que lui revendique toute notre vie. C'est à lui que nous devrons confier toutes ces choses qui font notre vie, quitte à ce qu'il nous demande de renoncer à certaines d'entre elles pour les remplacer par d'autres bien meilleures. Souvent également, nous sommes tentés de vouloir d'abord « assurer nos arrières », entre guillemets, avant de pleinement consacrer sa vie à Dieu. Je vais d'abord tout miser sur mes études, je vais m'assurer que ça c'est réglé, puis ma carrière, mon couple, et quand j'aurai le sentiment que ces choses-là c'est bon, eh bien, je serai bien disponible pour le Seigneur. Chaque chose en son temps. Je caricature un peu, bien sûr, mais n'avons-nous pas parfois cette tendance ? C'est une façon de dire, en fait, implicitement, que nous savons mieux gérer notre vie que Dieu. Puisque lui, on n'est pas trop sûr de comment il va la gérer, donc on va d'abord s'assurer que l'essentiel est là, puis ensuite on va lui faire confiance une fois qu'il n'y a plus trop de risques, pensons-nous. Quelle idolâtrie terrible ! C'est un peu comme l'homme qui disait à Jésus « Je veux bien te suivre, mais laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. » Ce par quoi il voulait dire « Je pense, laisse-moi attendre que mon père meure, et après cela je te suivrai. » Or, Jésus demande à ceux qui le suivent de tout lui donner. Tout. Et maintenant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Et quiconque perdra sa vie, la sauvera. Notre travail, il lui appartient désormais. Il ne nous appartient plus, il appartient à Dieu. Nos finances, elles lui appartiennent. Notre vie familiale, elle doit avant toute chose l'honorer. Alors ça nous offusque peut-être, on peut se dire, mais de quel droit est-ce que Jésus exige toutes ces choses ? Eh bien, tout simplement parce qu'il est qui il est. Il est le Fils de Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur, notre Sauveur. Tout ce que nous avons vient de lui, toutes nos ressources viennent de lui. C'est nous qui, pour un temps, les avons détournées de son autorité. Il va s'agir maintenant de se replacer sous l'autorité pleine d'amour et de grâce de notre Dieu. Se tourner vers Jésus, c'est abandonner toute autre source d'espérance. Et c'est ce que Pierre nous rappelle au verset 13. « C'est pourquoi, donc, puisque vous avez reçu de Dieu l'accomplissement de ses promesses, mobilisez vos facultés mentales, soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. » Si nous avons décidé de suivre Jésus, nous ne pouvons pas continuer à placer notre espérance ailleurs qu'en lui. Notre famille, présente ou future, notre travail, notre évolution professionnelle, nos vacances, notre retraite, ne peuvent plus être une source d'espérance. Ces choses, si elles sont vécues avec et pour Dieu, peuvent être des bénédictions, bien entendu, des encouragements, parfois de nouvelles occasions données pour vivre notre foi. Mais elles ne peuvent pas constituer notre espérance. Le moteur de notre vie, sa finalité, sa priorité, c'est le Seigneur. C'est la fin du monde tel que nous le connaissions. Alors certes, il y a là un renoncement, mais un renoncement qui est sans comparaison avec ce qu'on reçoit à la place. Nous recevons la vie pour laquelle nous avons été créés, en communion avec Dieu. Au verset 13, Pierre écrit littéralement très littéralement, saigner les reins de votre entendement. Saigner, C-E-I-G-N-E-Z. C'est-à-dire, en modernisant un peu, attacher la ceinture de votre entendement, de votre intelligence. Attacher la ceinture de votre intelligence. Au temps où cette lettre a été écrite, les hommes, en tout cas, les femmes, je ne suis pas sûr, portaient typiquement un vêtement flottant qu'on relevait et qu'on attachait avec une ceinture lorsqu'on allait partir quelque part. On détachait lorsqu'on était chez soi, c'était flottant. Et lorsqu'on partait en voyage, eh bien, on l'attachait. Lorsqu'on sortait pour aller travailler, etc. Donc l'image, c'est vraiment de se mettre en marche, de se préparer à un déplacement, à un voyage même. Et il va s'agir de vivre autrement, de changer de cap. Alors quel est ce nouveau cap ? La suite du verset nous le révèle. Mettez toute votre espérance dans la grâce apportée par la révélation de Jésus-Christ. Dans ce verset, il faut noter que Pierre n'énumère pas trois actions séparées et bien distinctes. D'une part, il faut mobiliser ses facultés mentales, par ailleurs, il faut être sobre, et puis, enfin, il faut mettre toute son espérance. Dans le texte original, il utilise d'abord deux participes. Supporter une petite remarque un peu technique, ça a sa pertinence. Il dit en fait, mobilisant vos facultés mentales, étant sobre, mettez toute votre espérance. Le verbe à l'impératif, c'est le fait de mettre toute son espérance. Donc le fait de mobiliser ses facultés mentales et d'être sobre, c'est ce qui nous permet de mettre toute notre espérance dans la grâce apportée par Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas de se mobiliser, histoire de se mobiliser, on ne sait pas trop pourquoi, ou d'être sobre simplement parce qu'il faut être sobre, même si c'est une bonne chose d'être sobre, mais il s'agit de s'assurer qu'il n'y a aucune interférence dans notre vie, aucune interférence par rapport à l'espérance que nous sommes appelés à placer en Jésus-Christ. Pierre nous demande de tout centrer sur Jésus. Tout ce que l'on fait, tout ce que l'on aime, tout ce qui nous mobilise doit contribuer ultimement à le servir lui et à témoigner de lui. On a vu récemment les manifestations qui ont lieu en Égypte. Sans me prononcer sur les vertus ou non de ce mouvement populaire, c'est vraiment pas le lieu. Mais ce qui m'a frappé, c'est de voir l'extraordinaire capacité des hommes à s'engager pour une cause lorsqu'il est convaincu qu'elle est juste et qu'elle va, au moins dans une certaine mesure, changer la vie. Les manifestants de la place Tahrir ont été prêts à rester sur cette place, jour et nuit, pour beaucoup d'entre eux, à tenir tête à tout un système politique qui tenait ferme depuis plus de 30 ans. Ils ont été prêts à prendre des risques, à risquer jusqu'à leur vie, pour arriver à cet objectif qu'ils visaient absolument, la chute du régime. Et donc, brusquement, des hommes et des femmes qui vivaient une petite vie tranquille dans leur coin, entre guillemets, ont mobilisé toute leur force et toute leur détermination. Et en 3 semaines, ils ont fait chuter un régime de 30 ans. C'est extraordinaire. L'espoir ardent qu'ils ont placé dans ce changement politique leur a permis de jeter toutes les forces dans la bataille. Et je me dis, si seulement nous parvenions à nous mobiliser avec la même énergie que les manifestants égyptiens, non pas en l'occurrence pour manifester et faire tomber un régime, mais pour vivre pleinement la vie à laquelle Dieu nous appelle. Pour montrer à nos contemporains, par notre façon de vivre, par notre mobilisation de toute notre intelligence et de toute notre vie pour le Seigneur, que Dieu existe, qu'il est puissant, que son Fils Jésus-Christ règne sur notre vie, qu'il la transforme au quotidien et qu'aujourd'hui même il est en train de préparer le renouvellement de toute chose, de toute la création. Si nous pouvions vivre une vie qui, par la foi, l'espérance, l'amour, la vérité qu'elle témoigne, soit comme une pancarte « Stop !» à l'attention de ceux qui nous entourent. « Stop ! Arrêtez de passer à côté de l'appel de Dieu. Nous vous en supplions au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. » 2 Corinthiens 5:20. Pour Pierre, la vie nouvelle avec Jésus implique en quelque sorte un côté pile et un côté face. D'une part, il s'agit de centrer toute son espérance sur Jésus, de tout miser sur lui, de placer notre vie entière entre ses mains. Mais cela implique de renoncer à une ancienne façon de vivre, marquée par d'autres espérances. Et c'est là, je crois, que la sobriété entre en jeu. Il y a peut-être des choses dans notre vie qui sont accessoires, qui sont superficielles, qui sont finalement assez futiles et qui n'apportent rien d'autre fondamentalement que de nous distraire de l'essentiel. À chacun de s'examiner soi-même Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas avoir de loisirs, qu'il ne faut pas avoir de temps de détente. Mais il y a peut-être certaines choses, qui ne sont pas d'ailleurs forcément des loisirs, qui ne servent à rien d'autre sinon à nous distraire de l'essentiel. Soyez sobres, a fortiori, évitez une vie d'excès, d'ivresse, de débauche ou autre qui vraiment va vous distraire de l'essentiel. Verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, ne vous conformez plus au désir que vous aviez auparavant de votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car moi je suis saint. » Si nous sommes devenus les enfants de Dieu, il n'est pas possible, il n'est pas concevable qu'on continue à vivre la vie que l'on vivait avant de connaître Dieu. Alors ces désirs dont Pierre parle au verset 14 ne sont pas les désirs justes et bons que Dieu lui-même a placés en nous, qui font partie de sa création, désir d'aimer, désir de servir, désir d'abondance, désir d'éternité. Il s'agit plutôt du détournement de ces désirs au profit d'idoles que le péché suscite en nous. S'aimer soi-même plus que Dieu. Servir le mal plutôt que de servir Dieu. Chercher l'abondance dans l'argent plutôt que l'abondance dans la vie avec Dieu. Chercher l'éternité par le prestige personnel, la marque qu'on va mettre sur les autres, plutôt que de recevoir l'héritage impérissable de Dieu. Et Pierre nous dit, ces idoles appartiennent à notre ancienne vie, elles n'ont pas leur place dans notre vie nouvelle. Désormais, nous sommes appelés à être saints. S'il y a bien une notion qui a été déformée au cours de la tumultueuse histoire de l'Église, c'est celle de la sainteté. Être saint ne veut pas dire qu'on est un surchrétien qui nous donnerait une sorte de statut à part, ou qu'on vivrait une sorte de vie désincarnée et hors du monde. Encore moins être quelqu'un que l'on peut prier ou qui serait un intermédiaire entre nous et Dieu. Être saint veut simplement dire être consacré à Dieu, lui appartenir pleinement et vivre pour lui. L'une des grandes redécouvertes de la Réforme a été de comprendre que cette consécration à laquelle Dieu nous appelle n'est pas le fait d'une élite spirituelle, mais de tous les chrétiens. Cette sainteté, elle est avant tout le résultat d'une décision de Dieu, bien sûr, de l'appel efficace de sa grâce souveraine, par laquelle il nous consacre à lui, et il entre lui-même par la croix et la résurrection en relation avec nous. Mais de notre part, ça implique nécessairement un demi-tour. « Soyez saints comme je suis saint, » dit le Seigneur. Et vous noterez que Pierre cite ici une formule qui revient à plusieurs reprises lorsque Dieu fait alliance avec Israël dans le désert après l'avoir délivré d'Égypte. Il applique au peuple de la Nouvelle Alliance, l'Église, ce qui était dit du peuple de l'Ancienne Alliance. C'est une façon pour lui de leur dire « Vous êtes mon peuple, vous êtes à moi et vous allez montrer au monde qui je suis, moi, l'Éternel. » Voilà quelle était la vocation d'Israël. Voilà quelle est la vocation de l'Église. Et il va maintenant s'agir de vivre dans les faits ce que nous sommes déjà aux yeux de Dieu, un peuple qui lui est entièrement consacré. Alors vous me direz, peut-être que tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que ça peut être vécu au quotidien, dans le métro, au travail? Être saint, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Il faut reconnaître que cet effort par lequel nous renonçons à toute forme d'espérance pour placer toute notre espérance en Christ, c'est quelque chose qui prend toute la vie. Nous n'allons pas connaître d'ailleurs la plénitude de cette consécration totale à Dieu avant de la connaître dans la nouvelle création. Mais dès le verset 17, Pierre nous montre bien que nous ne sommes pas encore arrivés. Nous vivons encore comme en exil. Comme l'écrit l'auteur aux Hébreux, nous n'avons pas ici de cité permanente, nous cherchons celle qui est à venir. Mais, nous rappelle Pierre, le jour J de l'histoire est arrivé lorsque Jésus est mort pour nos fautes et ressuscité pour inaugurer une vie nouvelle. Et du coup, si nous avons placé notre confiance en lui, le jour J de notre vie est lui aussi arrivé. Alors comment vivre en conséquence? Premièrement, examinons notre vie actuelle. Faisons un audit. Peut-être que l'un de ces samedis matins, seul ou en famille, nous pourrions réexaminer ce qui nous mobilise avant tout. Alors le travail, par exemple, est-ce que je travaille avant tout pour moi-même? Ou est-ce que mon travail est avant tout un instrument de bénédiction et éventuellement un instrument de témoignage. Une occasion rêvée de faire le bien, une occasion rêvée de montrer, ne serait-ce que par les actes, une autre façon de vivre. Lorsque vous attachez la ceinture de votre intelligence le matin, est-ce que c'est pour servir le Seigneur ou est-ce que c'est pour nous servir nous-mêmes? Je m'adresse bien sûr la question à moi-même aussi. Et votre espérance, où est-elle placée? Est-ce que dans les moments difficiles, c'est finalement la perspective des vacances ou de la retraite qui est le premier réconfort? Ou bien peut-être du temps passé entre amis? Ou bien est-ce que c'est avant tout le secours qui se trouve dans notre relation avec Dieu, dans le fait que notre vie est entre ses mains? Je ne peux pas insister assez sur le fait que Dieu ne nous enlève pas notre quotidien, il ne nous retire pas du monde, il ne nous ôte pas forcément les choses bonnes et légitimes qui en font partie, à moins qu'elles ne soient des interférences dans notre vie, mais plutôt il les place sous son autorité. Il appelle ce quotidien à une vocation infiniment plus belle. Et nous sommes ces extraordinaires privilégiés qui vivent du temps de la grâce de Dieu, que Dieu lui-même est en train de mobiliser pour établir son règne. Est-ce que notre vie en témoigne? Un auteur que j'apprécie, Francis Chan, écrit que être chrétien à la petite semaine ou mi-figue, mi-raisin, tiède, en fait ça n'existe pas vraiment. La Bible ne semble pas tellement envisager ce cas de figure. Si nous vivons notre vie chrétienne comme une petite addition sympathique au reste de notre vie, nous ne sommes sans doute pas chrétiens. Si Jésus est quelque part dans la liste des choses qui comptent pour nous, nous ne sommes peut-être pas chrétiens. Alors comprenez-moi bien, il ne s'agit pas d'imaginer que nous allons devenir irréprochables. Il s'agit plutôt de nous demander si notre vie est orientée dans la bonne direction, si c'est Jésus qui en est vraiment le maître. Et si c'est bien le cas, il s'agit de nous assurer encore et encore, jour après jour, que nous mobilisons nos facultés mentales et spirituelles, que nous sommes sobres et que nous repoussons tout ce qui nous distrait de notre engagement envers Dieu pour placer toute notre espérance en Jésus-Christ et dans la grâce qui est en lui, fondée sur l'assurance de sa grâce et de son pardon, bien sûr, sans lequel nous ne pourrions pas tenir. La tension qui existe chez tout chrétien entre ce que nous savons être notre vocation et notre tendance à nous éloigner de Dieu ne peut que nous ramener à ce réexamen régulier, quotidien sans doute. Mais peut-être aussi que certains ce matin ont besoin de se convertir. Et peut-être que vous ne le pensiez pas, vous pensiez que c'était déjà fait. Se convertir au sens strict du terme, faire demi-tour. Si vous avez demandé à Jésus de vous suivre, il est temps de faire demi-tour et de le suivre. Il est temps de devenir chrétien. Et si vous vous reconnaissez dans ce cas de figure, n'hésitez pas à venir m'en parler ou à un autre responsable de l'Église à la fin du culte. Ne nous y trompons pas. Nous sommes appelés à une vie radicalement autre. Le temps d'ignorance est révolu et Dieu nous invite maintenant à la vie véritable. Alors attachons nos ceintures, mobilisons nos facultés mentales, détournons-nous de tout ce qui nous empêche d'être consacrés à Dieu. Plaçons toute notre espérance